Bonjour à toutes et à tous. Paul Nathan au micro de Radio IDFM avec Christophe à la technique. Bonjour Christophe. Bienvenue à vous tous qui nous écoutez sur Radio IDFM 98. Merci d'avoir choisi notre antenne et d'être fidèle au rendez-vous de l'économie en direct. Aujourd'hui, nous recevons trois personnes, deux entreprises communication par l'objet, Costume Carbone et AZ.com. Alors AZ.com, Alexandra Pichonaz va arriver dans quelques minutes. Elle m'a prévenu qu'avec la neige, elle aurait un petit peu de retard, mais elle sera là. Donc Nicolas Wolf, là vous voilà peut-être.
Bonjour.
Et donc voilà, Alexandra Pichonaz qui nous rejoint. Donc Nicolas Wolf de Costume Carbone et Alexandre Penon, dont les entreprises interviennent dans la location d'échafaudage et dans la vente de bois de chauffage. Nous allons commencer par Alexandre Penon. Dans la mesure où j'ai vu que en 2023, il allait fêter les 30 ans de la création de son entreprise. Donc on va commencer par un anniversaire. Donc Alexandre, si vous pouviez vous présenter et puis après on discutera de vos structures.
D'accord, avec plaisir. Donc Alexandre Penon, échafaudage 95, donc une entreprise que j'ai ouverte en 1993, ça passe vite.
En mai.
En 1993, ouais. Donc je suis un petit peu fier, pas de l'entreprise, mais d'avoir encore survécu pendant ces 30 ans à gérer une petite entreprise. Parce que c'est pas facile tous les jours. Et puis comme ça marchait pas mal, je me suis dit qu'il me fallait que je me donne quelques challenges et j'ai monté Boîte Chauffe 95 il y a maintenant une dizaine d'années et vraiment grossi depuis 4-5 ans.
Et c'est une deuxième entreprise ou elle est dans la même structure?
Elle faisait partie de la même entreprise parce que j'avais trouvé cette idée pour occuper un peu mes gars l'hiver parce que décembre, janvier, l'échafaudage, c'est pas vraiment la saison. Et puis ça a pris de l'ampleur et puis j'ai ramené un collègue à moi, un de mes amis qui est revenu d'un périple dans les pays étrangers qui lui connaissait la grande distribution, donc on est parti à séparer les deux entités et à grossir comme ça Boîte Chauffe 95.
D'accord. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on parle de chacune des deux structures.
Avec plaisir.
Et qu'on rentre un petit peu dans le détail. On commence par échafaudage 95.
Échafaudage 95. Donc moi j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai fait un CAP de cuisine et je suis parti donc dans la cuisine pendant quelques années en choisissant de faire les saisons pour pouvoir voyager un petit peu. Donc j'ai fait l'été au bord de la mer et l'hiver à faire du ski à la montagne. Et au bout de quelques années, j'ai décidé de partir en Martinique. Et là, j'ai rencontré, pendant mon périple, un monsieur qui faisait des échafaudages à Strasbourg. Et comme j'en avais par-dessus la tête de la cuisine, je pouvais pas avoir de vie de famille, ça me paraissait difficile. Donc je lui ai proposé de venir en tant que stagiaire faire quelques mois à Strasbourg. Il a accepté, la NPE a accepté aussi un maître de stage et de m'envoyer là-bas. Donc pendant 6 mois, je suis parti à Strasbourg faire des échafaudages.
C'est une belle histoire. Alors, j'étais ce week-end aux entretiens de Royaumont et en fait, il y avait quelqu'un qui était à la radio et qui était chroniqueur sur Radio France, qui lui est devenu cuisinier. Et donc, un des thèmes, c'était sur l'hybridation et comment finalement on arrive à avoir des parcours totalement diversifié et où on cherche à un moment de se dire aujourd'hui c'est plus possible d'avoir des parcours linéaires, donc ouais. c'est déjà effectivement, et alors on comprend mieux les problèmes qu'il y a en restauration aujourd'hui pour trouver des gens, parce
ouais,
que
c'est
des gens qui ont à la base ont fait ce métier là et cette formation disent j'en ai ras le bol.
Moi, j'avais décidé de pas suivre un cursus scolaire où je me sentais pas vraiment à l'aise et je pense que c'était pas pour moi. Donc, c'est vrai que la cuisine est très formateur parce que vous avez, un, la préparation du service, deux, le service, Je propose à chacun d'essayer de faire un service une fois dans sa vie où vous êtes dans le jus avec 200 personnes qui vous crient dessus parce que le repas n'est pas prêt. Et après, plus jamais dans votre vie, vous ne serez pas préparé pour aller travailler. Donc c'est très formateur.
Donc vous avez retenu la leçon pour échafaudage 95 par rapport au service client.
Je crois que le secret d'un chef d'entreprise, enfin dans beaucoup de métiers certainement, mais c'est de jamais remettre à demain ce qu'on est capable de faire le jour même. Donc je vais jamais me coucher tant que ma journée n'est pas prête. Voilà. Donc ça peut veiller très tard.
Alors, du coup, pour j'ai vu que vous étiez coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, c'est ça?
Ouais, c'est-à-dire qu'en tant qu'échafaudeur, j'ai été confronté de plus en plus à un fusible qui a été mis en place par l'État, un coordonnateur SPS. Donc, deux types de coordonnateurs, niveau 1, niveau 2. Niveau 1, c'est conception-réalisation. Donc, ça veut dire que vous êtes au départ du projet, vous conceptualisez le projet, la fabrication de l'immeuble et vous mettez en sorte de faire une mise en place de sécurité qui tienne la route. Et puis le suivi du chantier. J'avais aucun diplôme parce que le CAP, j'ai pas été.
Ça permet pas. Hein.
Donc je l'avais pas. Donc à un moment donné, avec quelques années d'échafaudeur derrière moi, une petite entreprise, on ne sait pas où on va. Donc je me suis dit, avec une vie de famille, trois garçons.
Vous êtes resté combien de temps à Strasbourg?
Je suis resté six mois.
6 mois.
Donc je commençais le matin à 5h30 avec les gars, à 14h je partais en commercial avec mon ami, et après je rentrais en comptabilité jusqu'à 18-19h pour pouvoir suivre, et après je faisais les petits cours chez moi, enfin dans ma chambre, pour pouvoir être au point pour le lendemain.
Et au bout des 6 mois, vous avez créé votre boîte ou?
Et au bout des 6 mois, après c'est un parcours d'audace de monter une entreprise, enfin, ça s'est peut-être amélioré, mais avant l'État ne nous aidait pas, donc c'était juste pour voir si on était capable de la monter, je pense, mais voilà. Donc une fois que ça, une fois
maintenant que c'est plus facile de la monter, mais il faut durer. C'est ça,
ouais,
le plus dur.
Pour avoir monté Boîte Chauffe 95, c'est encore compliqué, mais tout n'est pas fait pour que le gérant se sente à l'aise en France, mais on fait ce qu'il faut pour essayer en tout cas.
Donc je reviens, je vous ai interrompu, ouais. Donc sur le SPS.
Coordonnateur SPS, donc je vous dis, une fois que j'avais travaillé quelques années, je me suis dit que ça serait bien d'avoir une valorisation de mes acquis, que si jamais ma petite boîte ne fonctionne plus, que je me retrouve pas le bec dans l'eau et sans rien à faire, et sans moyen de subsister à ma famille. Donc j'ai pris des cours du soir et j'ai passé le diplôme de coordonnateur SPS niveau 1, ce qui me permet aujourd'hui que quand je suis confronté à ces personnes de savoir de quoi ils parlent.
Alors en quoi ça consiste? Quels sont le plus qu'apporte
Alors le coordonnateur SPS, ça part d'un bon sentiment, c'est-à-dire qu'il y avait énormément d'accidents, pas seulement à cause de l'échafaudage, mais surtout les bâtiments, liés à beaucoup de choses. Et le coordonnateur est là pour... il est payé par le maître d'ouvrage, donc c'est là où son poste est délicat. Il est payé par le maître d'ouvrage, donc le chantier doit continuer, tout en mettant la sécurité sur les entreprises et les obliger à se mettre en conformité au niveau des EPI et de la sécurité en général. Donc voilà, c'est un poste pas facile, mais si les entreprises maintenant, au début ils ont eu beaucoup de mal, maintenant ils commencent à comprendre que ça amène vraiment du bien, mais il a les moyens d'arrêter le chantier, et la difficulté c'est qu'il est payé par le client général qui monte le bâtiment, donc pour lui c'est délicat. Mais en tout cas, c'était quelque chose d'intéressant. Ça m'a appris beaucoup de louables, beaucoup de textes, et de savoir vraiment de quoi je parlais.
Mais en fait, par rapport au métier d'échafaudage 95, c'est un plus, un service que vous offrez. Bah, c'est pas une obligation pour les entreprises ou pour vous d'avoir ce diplôme.
Échafaudage 95, c'est l'adaptation du poste de travail en hauteur, en toute sécurité. Donc mettez en bas de votre devis coordonnateur SPS sécurité interne du chantier, c'est un plus pour le devis, c'est certain.
D'accord. Donc maintenant on rentre encore un cran plus loin dans la démarche. Donc l'entreprise du bâtiment s'adresse à vous, elle a des travaux en hauteur à faire. Donc c'est la loi qui oblige de monter un échafaudage, c'est ça ?
Là, c'est pas la loi. Enfin, en quelque sorte, vous avez raison. C'était la CRAMIF, hein, la sécurité du chantier, la sécurité sociale, qui oblige ou qui préconise le fait de mettre un échafaudage de pied dès que le bâtiment le permet. C'est-à-dire que dès qu'on peut poser un minimum de un pied, on doit être censé mettre un échafaudage en place. Parce que au niveau des règles de sécurité et du poste de travail adapté, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup mieux pour tous les employés.
D'accord, donc toiture, ravalement, des choses comme ça.
Voilà, toiture, ravalement, installation de clim. Voilà, depuis quelques années, ils nous ont obligés les échafaudages sur les protections de couverture. Avant, les collègues couvreurs mettaient des taquets d'échelle. Et le problème, c'était pas tellement les taquets d'échelle, c'était l'installation de ces échafaudages volants qui posaient problème parce qu'ils montaient avec des pièces très lourdes sur le dos en haut de l'échelle et il y avait beaucoup d'accidents à ce niveau-là. Donc le fait de mettre des échafaudages, c'était quand même plus sécurisé.
On va faire une petite pause musicale et puis on réattaque juste après.
Le printemps c'est quand le soleil et les grands ciels, l'espoir et le beau temps.
Dis c'est quand, dans combien de temps, est-ce demain, après-demain, ça fait trop longtemps qu'on attend.
Est-ce bientôt,
jamais,
mais quand,
quand, l'égalité quand. C'est quand l'union de celles et ceux divisés pas si différents.
Dis c'est quand, mais qui nous comprend. Quelle que soit l'allure, l'apparence, sache que le cœur en vaut la danse.
Y'a que des gagnants dans
ce camp. La conscience quand, acte manqué, inassumé, en mesure-t-on les conséquences.
Oui, mais quand, reste-t-il du temps. Doit-on attendre de la science ou bien tout miser sur la chance? Ne plus jamais
demander quand.
Mais nous c'est maintenant, mais nous c'est maintenant. Nous c'est maintenant, t'es maintenant, maintenant. Tout le temps c'est urgent. Et nous c'est maintenant, on n'a plus le temps. Offenser nos pensées, nos passés. Oui mais prêt à tout recommencer. Non, maintenant.
Quand la paix c'est pour quand.
C'est dans nos livres et nos chansons,
mais c'est jamais là pour de bon.
Dis c'est quand, mais qui nous entend. L'accord, l'harmonie, la raison.
N'est-ce qu'un rêve, une illusion.
La fin du sang des gens.
Mais quand, la sagesse quand. L'âge de raison, l'âge de courage.
Mais qui sommes-nous vraiment, dis c'est
quand. Le discernement, la prudence avant le jugement, un jour enfin plus tolérant, oui mais
quand, la justice quand,
combien de discours en avant, demi-tour,
quand, moi j'ai plus le temps, ça fait trop longtemps qu'on attend,
et nous c'est pour quand,
vous êtes toujours sur IDFM, Radio 95. Donc, question quiz. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qui a chanté? Est-ce que vous avez reconnu les paroles et la musique? Donc, paroles et musique, Jean-Jacques Goldman. Donc, c'est déjà une information. Et vous avez entendu Trois cafés gourmands. Et le titre de la chanson, c'était Quand? Donc, nous revenons maintenant à nos trois invités. Donc, je suis toujours avec Alexandra Pichonaz, AZ.com Création, Nicolas Wolf, Costume Carbone, et Alexandre Penon, Échafaudage 95 et Boîte Chauffe 95. Donc, nous reprenons notre discussion avec Alexandre. Donc, on en était sur vos... toute la partie échafaudage technique. Maintenant, j'aurais voulu savoir quels sont vos types de clients et en fait comment se passe, parce que il faut avoir les échafaudages en stock. Donc comment se passe toute cette gestion finalement des échafaudages par rapport au chantier des clients, quand il y a du retard, parce que dans le bâtiment c'est souvent qu'on voit des retards. Donc je me dis que ça doit être un casse-tête chinois terrible.
Alors effectivement, c'est un casse-tête chinois. En même temps, je pense que je dois connaître pièce par pièce pour avoir monté pendant 17 ans mes propres échafaudages. Il y a des pieds que je revois, que je manutentionne avec plaisir parce que je les voyais encore il y a 25 ans dans les mains. C'est une gymnastique difficile, mais j'ai à peu près le stock dans la tête, donc j'arrive à savoir à peu près où je vais suivant les montages. C'est vrai qu'en ce moment on est particulièrement vide au niveau des parcs. Dès qu'il y a une crise, en fait, les gens arrêtent d'acheter des échafaudages, ils louent. Donc là, tous mes collègues et moi-même sont complètement vides. Donc, si vous voulez monter des échafaudages cet hiver, prévoyez.
Donc, en fait, on renverse un peu la mécanique. C'est l'entreprise cliente qui vient vous voir et qui, en fonction de la disponibilité des échafaudages, va fixer les dates de ses chantiers. C'est comme ça que ça fonctionne.
C'est exactement ça. En ce moment, c'est très difficile. Donc on est à 3 semaines, 1 mois de réaction en échafaudage. Ça s'est jamais vu. Normalement, on est plutôt à la dernière roue du carrosse. Le devis est signé et on nous appelle et il faut monter le lendemain. Et là, on est plutôt à 3 semaines, 1 mois. Donc, en 30 ans, c'est la première fois que ça m'arrive.
Donc, le bâtiment va. C'est ça qu'on doit conclure ou pas?
Peut-être qu'il va, oui, certainement. Il y a de la demande maintenant. Comme je vous disais, ils achetaient de l'échafaudage. Aujourd'hui, ils décident de prendre des sociétés de location pour leur monter. Donc, pour être moins ennuyés, c'est vrai que les règles sont de plus en plus difficiles. Donc, ils ont besoin de faire appel à des professionnels pour être moins embêtés. Peut-être que ça joue aussi.
Sûrement, ça donne de la flexibilité en tout cas. Mais là, j'allais dire, ce qui m'interpelle tout à l'heure quand vous avez fait votre présentation en expliquant pourquoi vous aviez créé Boîte Chauffe, vous disiez, enfin, je raccourcis un peu votre pensée, c'est à contre-cycle. Donc, c'est bien, dans ma période creuse en termes d'activité échafaudage 95, j'ai Boîte Chauffe. Et là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que dans cette période qui devrait être la période creuse, vous avez à un mois de carnet de commandes, disons-le comme ça, que vous n'aviez jamais avant.
Oui, c'est tout à fait ça. Bon, il se trouve que quand j'ai monté Boîte Chauffe 95, échafaudage 95 était quand même moins connu. J'avais 10 ans de moins. Donc, j'avais plus de personnel aussi. Malheureusement, j'ai décidé de réduire un petit peu la masse salariale pour pouvoir passer les épreuves avec les crises différentes qu'il y a eu. Donc aujourd'hui, quand il y a un surcroît de travail, on fait appel à des gens, des sociétés avec qui on a l'habitude de travailler, qui viennent nous filer un coup de main en sous-traitance. Voilà, à cette époque-là, effectivement, il y avait 2 mois. Il y avait aussi le réchauffement qu'on sentait moins parce qu'il y avait quand même des périodes de froid plus intenses où le bâtiment s'arrêtait presque pendant 3 semaines, 1 mois. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On ravale, on fait de la couverture toute l'année. Donc, il faut s'adapter, en fait, en permanence. Le chef d'entreprise, c'est ça, en fait. Il s'adapte.
Ça, c'est clair, c'est le seul truc qui a commun à tous les chefs d'entreprise.
C'est ça.
La capacité à s'adapter.
La capacité à s'adapter, c'est ça qui fait la différence entre les différents chefs d'entreprise.
Et à être réactif.
Voilà. Après, il y a les aléas de tout qui font que c'est pas parce qu'on se plante qu'on est un mauvais chef d'entreprise. Il faut que les étoiles soient bien alignées en permanence.
Vous avez combien de personnel, combien de personnes?
Sur échafaudage, on en a 3 qui sont présents, et puis après on a des sous-traitants, on a 9 sous-traitants qui viennent.
D'accord. Qui viennent et quelque part, c'est eux qui sont les conducteurs de, appelons ça les conducteurs de travaux quand on doit monter un échafaudage, parce que c'est forcément vous qui les montez. Donc
oui, on fait tout à fait, on fait le montage, démontage, la vérification en interne, donc, et le devis, donc on fait tout.
D'accord. Est-ce que il y a une question que je ne vous ai pas posée sur échafaudage 95 que vous aimeriez que je vous pose?
Non, je crois que ça a été complet, hein.
Bon. Ben merci. Donc on va basculer sur boîte chauffe 95. Alors l'idée, ok, j'ai entendu tout à l'heure, c'était d'être un peu à contre-cycle, mais au-delà de ça, l'intérêt de boîte chauffe, comment l'idée vous est venue en dehors de ce côté contre-cycle, et comment ça fonctionne?
Donc boîte chauffe 95, c'est parti de l'idée d'un parcours de santé qui m'a obligé à rester chez moi pendant plusieurs mois et fatigué, et donc à profiter d'un bon feu de cheminée. Et le problème, c'est que pour mettre du bois dans un feu de cheminée, il faut d'abord l'acheter. Et j'ai fait le constat de me faire avoir 2 à 3 fois en achetant du bois de chauffage. Alors je dis pas que ce métier est facile, moi-même qui suis maintenant dans le bois, je sais que avoir des lots de bois toujours constants, c'est particulièrement pénible, et c'est notre difficulté aujourd'hui parce qu'on est négociant en bois de chauffage. Mais la difficulté, c'est vraiment d'avoir une relation avec nos clients et de pas les laisser en galère et de faire en sorte qu'ils soient satisfaits.
D'accord.
Donc j'ai commencé à vendre du bois parce que moi-même j'avais été chaudé en achetant, et je me suis dit, je me sens pas plus con qu'un autre. Si je me fais avoir, il doit y avoir quand même quelque chose d'énorme à faire là-dedans. Et vous voyez, au bout de 10 ans, on a 12 000 clients, on fait 11 000 stères cette année. Donc apparemment...
Combien de clients vous avez dit?
On a 12 000 clients aujourd'hui. Donc,
c'est des particuliers.
Que du particulier. Enfin, on a des pizzerias, des rôtisseries, le parc Astérix. Donc, on a quand même qu'un récurrent, mais c'est essentiellement du particulier. Ouais.
D'accord. Et donc là, vous livrez? Comment ça se passe?
On est négociant. Jusqu'à présent, on était négociant en bois de chauffage. Ça veut dire qu'on reçoit 2 à 3 semi-remorques tous les matins de bois de chauffage qui arrivent de la France entière, parce qu'on a décidé vraiment d'acheter du bois en France. Donc les Ardennes, la Bourgogne, voilà. Et puis on est taxi en fait pour le bois. Donc notre travail à nous, c'est d'expliquer aux gens à quelle période ils doivent acheter le bois, comment ils doivent ranger le bois. Donc on a fait des petites vidéos par rapport à ça, une chaîne YouTube Bois de Chauffe 95 qui explique et qui conseille les gens pour aller acheter du bois à la bonne époque.
D'accord. Dans le contexte actuel, les approvisionnements en bois, les prix, parce que j'ai entendu que les prix s'envolaient littéralement à l'achat et à la vente. C'en est où? Est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce que c'est un problème ponctuel? Est-ce que c'est devenu un problème structurel? Beaucoup de questions.
Alors effectivement, c'est un problème qui va devenir récurrent. Pourquoi? Parce que les flux, tout le monde le sait, du gaz et de l'électricité ont monté et vont pas s'arrêter. Hein. Jusqu'à présent, il y avait un bouclier, mais ça y est, il s'est envolé. Donc le bois de chauffage restera de toute façon, à mon avis, le combustible moins cher. Le problème, c'est que l'ONF, comme les forêts privées, c'est des gens qui sont comme des bons pères de famille, qui gèrent leurs forêts comme ils devraient le faire. Donc c'est pas parce qu'il y a une demande en bois de chauffage qu'ils vont couper plus. Ils peuvent pas, ils sont obligés d'attendre que les arbres arrivent. arrive à maturité pour être coupé. Donc ça, ça, il y a une problématique parce que l'offre et la demande sont conséquents. Donc moi, on m'appelle tous les matins en me disant est-ce que tu veux ce semi de bois ? Voilà, si je le veux pas, il part ailleurs. Je veux dire, il est vendu très rapidement. Donc à partir de là, on a une demande qui est forte et les prix se sont envolés.
Alors de quel ordre les hausses ?
On est pas loin du double par rapport à l'année dernière.
Mais ça reste quand même compétitif.
Et ça reste. Moi, j'ai fait. Alors, à titre personnel, j'ai fait venir les places, les énergies de Paris qui ont regardé un peu ma maison. Et puis, on a fait le cumul et on a vu effectivement le bois rester encore le moins cher.
Mais en tant que chef d'entreprise, ça doit être quand même compliqué. Vous disiez, on m'a proposé un semi. Le prix d'aujourd'hui n'est pas celui de demain. Probablement.
On a beaucoup de clients.
Donc derrière, comment je gère mon prix vis-à-vis des clients ? Je présume que vous ne changez pas votre tarif tous les jours.
C'est un casse-tête permanent, mais avec tous les autres du BTP, c'est la même chose. Je veux dire, tous les produits de base ont explosé. Donc votre devis qui était valable 2 mois aujourd'hui, c'est très difficile.
Donc vous raccourcissez la durée de vie de vos devis ?
On est obligé. Pas presque tous les jours, mais toutes les semaines de revoir nos prix ou à la hausse ou à la baisse si on y arrive. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant 5 ans, le prix du bois n'a pas bougé. Donc d'un seul coup, effectivement, les gens sont choqués du prix du bois, mais il n'était pas à la hauteur de ce qu'il aurait dû être en fait au départ. Il n'y avait que des petits exploitants forestiers qui faisaient 500, 600 stères. Et aujourd'hui, on a des demandes de dingue, quoi. Notre carnet de commandes, il est plein jusqu'à mi-janvier, donc on peut...
Donc il y a un effet rattrapage aussi en termes de prix qu'on ne voyait pas.
Il y avait ce phénomène, oui.
Donc ça veut dire que ça redescendra jamais ?
Ah non, ça redescendra pas. Là, on est plutôt à se dire comment on va faire l'année prochaine pour avoir du bois sec. Donc là, je vous conseille vraiment, si vous pouvez stocker du bois, c'est de l'avoir d'un an à l'avance. On n'aura plus de baisse, c'est terminé.
D'accord.
Donc bois de chauffe 95, je rebondis sur ce que vous allez me dire après, mais j'essaye d'avancer par rapport à l'idée. On est à 100% en négociation de bois, donc l'idée c'est de plus être à la maîtrise de nos fournisseurs et de pouvoir amener un bois de meilleure qualité pour l'année prochaine. Donc on a décidé d'acheter des locaux et de façonner notre 40% de notre chiffre d'affaires de vente de bois nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va aller acheter les grumes, donc on a fait un partenariat avec l'ONF et des forêts privées, d'acheter des grumes directement aux forêts, de s'installer près de Gisors pour commencer à façonner notre bois.
Oui, parce que on entend souvent parler de la Chine qui n'arrête pas de nous acheter notre bois et qui le découpe ou le transforme et nous le renvoie. Donc ouais. Pour vous, c'est un problème en termes de source d'approvisionnement, le fait que...
De toute façon, évidemment, oui, c'est juste une aberration écologique d'envoyer tout notre bois là-bas, mais comme toute l'industrie, il faut qu'on revienne dans nos pays, on a le savoir-faire. Il faut dire aux jeunes, les métiers manuels sont intéressants, et arrêter de leur faire faire des études pour qu'après ils pointent au chômage. C'est juste.
Ah, ça c'est un vrai débat. C'est un vrai débat.
À un moment donné, il faut se poser la question. Là, on sort, je sais pas combien d'avocats tous les jours, tous les ans, et puis malheureusement derrière, ils ont pas forcément le travail. Donc.
Vous êtes 100% en phase avec Olivier Vignal, qui nous avait fait un grand commentaire sur ce sujet-là.
Ouais,
qui lui tenait à cœur.
On y est tous parce qu'on a du mal à trouver des compagnons et nos métiers c'est intéressant, je veux dire tous les jours on se lève avec du plaisir à aller travailler, c'est pas une galère quoi. Donc voilà où on en est avec Bois de Chauffe 95. L'idée c'est vraiment de commencer à façonner 40% de notre bois et de pouvoir amener un bois de qualité.
Alors, une dernière question, ça m'a intéressé, j'ai vu que vous aviez développé un concept de libre service.
Ouais, alors là, il y a une dizaine d'années encore, je me suis dit, tiens, pour rigoler et faire du buzz, parce qu'aujourd'hui, je me suis mis dans l'échafaudage et le bois de chauffage. Donc, alors que ce qui m'intéresse vraiment de plus en plus, c'est la vente par Internet, parce que j'y crois vraiment. Malheureusement, j'ai pas choisi des activités qui sont vraiment propices à la vente par Internet et l'envoi de bois par Internet. J'ai regardé, mais ça me coûterait vraiment trop cher. Donc, ça va pas marcher. Donc, avec un ami qui était graphiste, on a fait un faux distributeur. On s'est amusé il était derrière à balancer les bûches à travers la petite trappe, et je mettais quelques pièces et ça nous a bien fait rigoler. On a fait du buzz là-dessus sur Facebook à l'époque, et on a eu 15 000 personnes qui ont trouvé ça marrant. Donc c'est resté dans un coin de ma tête, et puis quand j'ai eu l'opportunité d'approfondir un petit peu plus la façon de distribuer le bois en distributeur 24h/24, voilà, on a foncé, et puis on a mis un distributeur maintenant il y a 3-4 ans à la gare de Saint-Leu-la-Forêt, et qu'on remplit tous les jours. Donc ça a l'air de fonctionner. On pourra en faire plus, mais on n'a vraiment pas le temps.
Oui, parce que c'est original. C'est un service qui est vraiment offert. Après, il faut approvisionner. C'est parce que j'imagine que vous n'allez pas reprendre votre idée d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans de mettre quelqu'un derrière qui alimente avec les bûches au fur et à mesure.
Non, tout à fait. Il faut vraiment qu'on développe ça, mais il y a tout à faire, en fait. Donc, il faut avancer. L'idée de mon associé, Monsieur Gilles Le Bossé, était vraiment de fournir à nos clients le maximum de possibilités pour rester jamais en galère avec le bois de chauffage. Et c'est vrai que ce distributeur permet, en dehors des heures de notre entreprise, de trouver du bois, même à 3h du matin. Si vous voulez faire du feu, vous pouvez.
Très bien. Bah en tout cas, l'idée mérite d'être creusée, développée. Aujourd'hui, entre la partie boîte de chauffe 95 et échafaudage, la répartition de votre chiffre d'affaires, ça se répartit comment entre les deux?
Un quart pour échafaudage et les trois quarts pour boîte chauffe.
Ah oui.
Là,
ça m'épate. Comme ça, intuitivement, j'aurais pensé que échafaudage 95, du fait de son antériorité. Hein,
oui, non, mais je suis resté raisonnable avec une entité qui tient la route, mais j'avais pas plus envie de me développer de ça sur l'échafaudage. C'est un métier que j'aime beaucoup, mais voilà, le bois a plus d'intérêt. Aujourd'hui, on est leader sur le 95 et on veut s'ouvrir sur l'Île-de-France. Donc, on va voir ce que ça peut donner après.
Ah ben, c'est un beau projet. Alors,
c'est un beau projet.
D'accord, ouais. Échafaudage à 30 ans, mais c'est peut-être l'ensemble avec bois de chauffe.
Voilà. Et moi, j'ai 30 ans de plus.
Il y a quelque chose
aussi
à faire autour de tout ça.
J'ai 30 ans de plus, donc il me reste quelques années. Voilà.
Et puis, c'est comme l'horizon, hein, ça s'éloigne.
Ça s'éloigne, voilà.
Donc, il vous reste beaucoup d'années.
Il me reste quelques années, oui.
On va marquer une nouvelle pause. You're all mine.
turn me inside and round and round, upside down. Boy, you turn me inside.
Nous sommes toujours sur IDFM. Vous venez d'entendre Diana Ross, pour les plus anciens, un grand souvenir, un grand tube des années 70, donc Upside Down. Et nous sommes toujours avec nos trois invités, Alexandre Penon d'Échafaudage 89 et Boîte Chauffe 95. Peut-être qu'il faut mettre en avant plutôt Boîte Chauffe, si j'ai bien compris.
Ou 95.
95, c'est ce qui est important, c'est le Made in 95. Ouais. Et puis, nous sommes également avec Alexandra Pichonaz d'AZ comme création. Et Nicolas Wolf de Costume Carbone. Tous les deux, vous êtes dans le même secteur, sur des marchés un peu différents, ou dans la répartition de vos activités, y en a un qui est plus important, plus prépondérant dans un secteur que dans l'autre. Je vais vous demander, de vous présenter, et deux, de présenter votre structure après. Donc, à tout bien, tout honneur, je commence par Alexandra, s'il vous plaît.
Ok, parfait, bonjour. Donc, moi, AZ comme création, je suis donc Alexandra Pichonaz. J'ai une maîtrise en administration économique et sociale, ce qui m'a permis en fait de développer une activité dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé en tant que chef de projet dans une agence de communication parisienne. Je suis restée 10 ans, j'ai fait 3 ou 4 agences différentes. J'ai commencé en étant chef de projet, ensuite j'étais directrice de clientèle. Et en 2007, j'ai eu mes 2 enfants et j'ai décidé d'en faire un troisième, qui est la société. En 2007, AZ comme création, c'est une agence de communication globale. À l'époque, j'ai commencé toute seule dans mon salon. Et puis rapidement, j'ai eu la possibilité d'avoir des clients assez grands comptes qui étaient en fait mes anciens clients parisiens, notamment dans le milieu bancaire et assurance. On leur faisait par exemple tout ce qui était affichage pour les agences, conditions générales, documents de souscription, tous ces documents un petit peu réglementaires, avec un savoir-faire dans leur métier sur tout ce qui était juridique en fait. En 2013, je suis devenue adhérente d'un réseau qui m'a fait arriver en fait dans l'objet de communication. Qui permet aujourd'hui d'avoir sur mes clients de l'époque de leur proposer de l'objet qui avec la personnalisation et du coup les logos qui sont positionnés sur les objets. En 2013, j'ai commencé à me former sur l'objet de communication, ce qui a développé un petit peu mon entreprise puisqu'on a recruté deux personnes supplémentaires et depuis on a évolué énormément, on a déménagé récemment, on est à Cergy maintenant.
Vous étiez où avant ?
Avant, on était à Magny-en-Vexin, on était aussi à Beauchamp au tout début. Quand j'ai commencé, j'étais à Beauchamp. Je suis partie sur le Vexin et je suis revenue donc l'année dernière à Cergy, au niveau de la préfecture. Donc aujourd'hui, on a une société de 7 personnes. On a la possibilité donc de proposer de la communication classique, tout ce qui va être identité visuelle, logo, carte de visite, brochures, catalogues. On propose aussi tout ce qui est vidéo, vidéo motion design. Ça va être de l'animation d'images en fait, qui va être utilisée notamment pour par nos clients grand compte pour par exemple faire des tutoriels sur des nouveaux produits qui vont sortir ou créer des petites scénettes pour aussi être utilisées par des conseillers, par exemple des conseillers bancaires. Donc cette partie-là, plutôt communication classique. Et ensuite, on a grosse partie sur l'objet promotionnel, le cadeau d'affaires, le textile, plutôt promotionnel et corporate dans un premier temps.
D'accord. Juste une question quand même, parce que je me suis posé la question sur le nom.
Oui.
C'est AZ.com, c'est à cause de Alexandra
et, oui.
et Pichonaz à la fin, avec
c'est
le
ça,
Z.
C'est le A de Alexandra et le Z de Pichonaz. Et aussi, c'était la communication de A à Z. De A à Z, voilà.
Mais comme on trouve beaucoup de communication de A à Z,
ouais.
Moi, il y a quelques années, j'avais fait un book professionnel où j'avais pris les noms de toutes les sociétés et la première, le nom commençait par A, le dernier commençait par Z. Donc le coup du A à Z, on y pense naturellement.
Mais c'est aussi.
Mais j'ai trouvé qu'avec Alexandra Pichonnaz, j'ai dit hasard ou réalité?
Réalité. D'ailleurs, c'est ma maman qui avait trouvé à l'époque.
C'est une belle histoire. Je passe juste, et on revient après à discuter ensemble, à Nicolas Wolf, pour qu'il m'explique. Là aussi, le nom de costume carbone, ça m'a interpellé. On peut peut-être commencer par ça, et puis après, vous nous dites un peu votre parcours et
alors,
ce qui vous a poussé à créer.
Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc, costume carbone, en fait, c'est né d'un projet d'école. J'ai passé ma première partie de carrière chez Nike pendant 12 ans, où j'ai occupé des fonctions commerciales et marketing. Et à la fin de ma carrière chez Nike, j'ai fait une formation à temps partiel à l'Institut français de la mode. Et pendant cette formation, en fait, une UV, c'était simplement création d'entreprise. Donc en groupe, on a conçu une marque de vêtements. Une marque de vêtements qui était en fait à l'attention des amateurs d'automobiles et de courses auto et de sport mécanique. Et dans un brainstorming qui était aussi une activité pédagogique, dans un brainstorming, Costume Carbone est sorti comme le nom qui rassemblait en fait cet univers un peu traditionnel du costume, pour pas dire un peu poussiéreux même presque, et l'univers technologique en fait avec le carbone de la course auto. Donc Costume Carbone, c'est la marque de vêtements qu'on a créée en 2010.
D'accord. Et là, c'était quoi? C'était des tenues de cuir?
Alors, c'était pas forcément des tenues de cuir. L'idée initiale, en fait, pour s'adresser à ces amateurs de voitures et de sport mécanique, c'était de créer vraiment une marque de vêtements plutôt chic, plutôt élaboré, assez haut de gamme, mais qui soit pas forcément très 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 visuel, très graphique. Donc c'était des belles chemises, des jeans de belle qualité faits en France, des cuirs, de la bagagerie, des polos.
Mais logoté à chaque fois.
Alors logoté de la marque, mais logoté discrètement avec des petits détails de finition, des boutons spéciaux, des petites plaques métalliques, voilà. Et donc l'intention initiale, c'était de créer une marque de vêtements pour les consommateurs finaux, donc en B2C. Et pour démarrer cette activité, en fait, on a créé nos premières collections, on les a vendues sur les circuits automobiles. Ce qui nous a exposé à des amateurs, on avait vraiment notre cœur de cible sur les circuits, dans les paddocks, que ce soit les spectateurs, les pilotes, les écuries, les organisateurs d'événements. Et ça a plutôt bien fonctionné au départ. Simplement, on s'est vite rendu compte que le nombre de dates dans l'année était quand même limité, que la météo pouvait avoir des effets assez catastrophiques sur nos résultats, parce que quand il pleut, les gens n'achètent pas, tout simplement. Et on n'a pas vraiment réussi à passer l'étape de mettre notre marque en magasin, ce qui est c'est difficile, hein, bien évidemment.
Parce qu'à la base, c'était ça l'idée.
L'idée, c'était de réussir à vendre en magasin. On parle de 2010, donc c'est une période où la vente sur Internet n'était pas encore aussi développée qu'aujourd'hui. Et quand on vendait un produit sans notoriété, cher, bah sur Internet, on n'avait pas encore vraiment les leviers, quoi. Les ventes sur Internet, c'était des soldes essentiellement sur des produits chers. Il n'y avait pas vraiment encore le poids d'Instagram et des réseaux sociaux sur ces activités-là. Et ce qui s'est passé en parallèle de nos premiers constats, c'est qu'on était exposés à des professionnels qui, eux, jusque-là, s'habillaient dans l'agence de com et étaient parfois déçus de ce qu'on leur proposait, en fait. Les coupes étaient pas dingues, la qualité pas terrible, les marquages pas forcément non plus toujours à la hauteur d'un produit qui dure. Et donc ils nous ont demandé de faire des fabrications spéciales pour leur activité pro. Donc on s'est retrouvé à faire des productions de polo, des productions de chemises, des productions de bagagerie, que ce soit pour des écuries, pour des organisateurs d'événements, pour des sponsors et en fin de compte aussi pour des pilotes, puisque les pilotes auto sont des gens qui sont généralement chefs d'entreprise et en fait dont les budgets marketing en fait servent à non seulement assouvir leur passion mais également à inviter des clients sur des lieux festifs et événementiels dans lesquels ils peuvent vraiment prendre le temps de nouer et d'entretenir leur relation avec leurs partenaires.
Votre commentaire me soulève deux interrogations. La première, je m'adresse à Alexandra Pichonaz en disant Nicolas et visiblement il y a tout un j'allais dire une partie de sa clientèle qui tourne autour de l'automobile qui était le projet initial. Est-ce que dans votre cas c'est la même chose? Est-ce qu'il y a un domaine plus particulièrement ciblé? Donc ça c'est la première question. Et la deuxième question que j'adresse à tous les deux, c'est autour d'Internet. Vous disiez quand on a créé, effectivement, Internet était moins présent. Maintenant on sait, a fortiori avec tout le Covid, la période Covid, les confinements, etc., que ça a été l'explosion à ce niveau-là, au niveau de tout ce qui était achat-vente en ligne. C'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, dans votre modèle économique, vous avez fait évoluer les choses, ça change, et comment? Donc, je commence peut-être par Alexandra.
Ok. Moi, par rapport à ma clientèle, elle est assez variée, en fait. Hein. J'ai tout type de métier, de l'industrie, du tertiaire. La différence de Nicolas, moi, je fais pas de production. Je propose, en fait, des produits sur catalogue. Et du coup, par rapport à l'Internet, on a effectivement, nous, un site, mais qui est un site vitrine un peu plus, avec des carnets de tendances, des choses qu'on va chercher chez les fournisseurs qui nous plaisent, qu'on a testé, et on est un peu en contre-courant puisqu'on a créé un gros showroom où justement on invite nos clients à venir voir les vêtements sur place, les objets, pour qu'ils puissent voir la qualité et qu'on décide et qu'on leur conseille le choix en fonction de l'utilité du textile. Et puis effectivement au niveau du marquage, ça c'est hyper important de bien conseiller par rapport à l'objectif du textile, si ça va être de l'événementiel, si c'est pour du corporate, si c'est pour des vêtements d'affaires, des vêtements aussi professionnels avec des possibles risques et des sécurités à avoir.
Nicolas, par rapport à ces deux questions.
Alors la première question, j'ai déjà répondu.
Oui, absolument.
Et la suite de ça, c'est que effectivement, il y a une bonne partie de ma clientèle qui est toujours dans l'univers automobile. Le deuxième univers important, c'est l'univers des transports et de la logistique. En partie parce que ce sont des gens à qui j'étais exposé ou auxquels Costume Carbone a été exposé sur les circuits, parce que c'est des amateurs aussi de sport mécanique. Puis après, la clientèle, par le bouche à oreille, par le fait que les pilotes soient chefs d'entreprise, la clientèle s'est élargie un petit peu à tous les domaines. Mais l'automobile, les transports et la logistique restent quand même des secteurs dans lesquels on a le plus de clients. Ensuite, industrie, bâtiment, service, bon, c'est assez variable et ça dépend. Le bouche à oreille, en fait, nous amène tout type de clients.
Et sur la partie vente internet ?
Et alors sur la partie digitale, c'est clairement quelque chose sur lequel Costume Carbone doit progresser. Puisque de notre côté, le conseil, la relation directe, en fait, a toujours été centrale dans le développement. Et alors, on fait des productions pour nos clients, mais on travaille également, comme Alexandra, sur une foule de catalogues. Et les catalogues, les fabricants, les produits sont pléthoriques. Et quand je parle de pléthorique, c'est le cas en textile, mais dans l'objet, c'est encore bien plus énorme. Et donc notre valeur ajoutée, elle consiste beaucoup dans le conseil et dans l'écoute du besoin et dans l'adaptation de l'offre à ce dont le client a besoin pour son activité. Donc l'activité, notre activité en ce moment, elle est en train de se digitaliser. On est en train de mettre notre sélection de produits sur Internet. On est aussi équipé d'un showroom dans la zone industrielle de Saint-Ouen-l'Aumône. Et on ne met jamais, en fait, nos clients face à un catalogue et face à un choix spontané. C'est trop compliqué, en fait. Il y a trop d'offres. On peut pas faire ça.
C'est pour ça que on crée des showrooms. C'est
exactement.
Rien ne remplace le fait de toucher,
hein. Mmh, oui, absolument.
Et en particulier dans le textile, pour se rendre compte de la qualité.
La qualité, ouais.
Mmh. On va marquer une pause. À tout de suite. Toujours sur IDFM 98. Nous sommes toujours avec Alexandre Penon, boîte chauffe 95, échafaudage 95, Alexandra Pichonaz, AZ.com Création et Nicolas Wolf, Costume Carbone. Donc nous continuons avec Nicolas. J'aurais aimé vous parler de vêtements personnalisés. J'aimerais que vous reveniez sur que vous nous expliquiez comment se passe la production de vêtements personnalisés. Et les délais, est-ce que vous avez des problèmes d'appro dans le contexte actuel, mais surtout comment ça se passe?
Alors, ça se passe super bien en fait. Il y a deux process pour faire du vêtement personnalisé. Le premier process qu'on utilise tous, Alexandra et moi et tous nos confrères, c'est le process qui consiste à sélectionner des vêtements disponibles en stock en Europe et à les faire marquer, que ce soit par transfert, sérigraphie ou broderie pour ce qui dure le plus longtemps. Le deuxième process, c'est la fabrication spéciale directement en usine. Donc, pour commencer à répondre à vos questions sur le premier process, on a eu ces dernières années quelques problèmes d'appro, effectivement. La pandémie a pas mal mis le beans dans la chaîne logistique. Et ce que nous appelons vêtements de stock ou vêtements de catalogue, ce sont des vêtements produits majoritairement en Asie, que des marques stockent par millions de pièces en Europe et qui nous sont disponibles en permanence. Donc on peut habiller des gens à partir d'une pièce et faire ou pas faire les marquages. Mais ces produits sont disponibles tout le temps. Ces deux dernières années, on a connu pas mal de problèmes de stock et de disponibilité. Donc on passe beaucoup de temps à chercher des remplaçants à des produits manquants. Et en l'occurrence, quand il manque une taille en textile, parfois on est obligé de changer entièrement le produit, même s'il y a 5 ou 6 tailles concernées.
Donc les sources d'appro, c'est du français, c'est du chinois,
c'est essentiellement de la production asiatique, hein, je dirais. C'est peut-être un peu au doigt mouillé, mais c'est 99% de production asiatique. Les seuls en ce moment encore à l'heure actuelle à être capables de fabriquer en grande quantité du vêtement de qualité ou pas d'ailleurs, mais même si c'est des vêtements de qualité, ça reste fabriqué en Asie. Si on devait les faire fabriquer en France, on aurait un, pas les capacités de production, et deux, les prix seraient beaucoup plus élevés, et sont beaucoup plus élevés. Aujourd'hui, on est capable de fournir des t-shirts, par exemple, qui sont les produits à peu près les plus simples. On peut fournir des t-shirts faits en France, à des prix acceptable pour les clients. Mais si le client a besoin de 100 000 t-shirts, c'est juste pas possible dans un délai raisonnable parce que les usines ne peuvent pas absorber ces demandes.
Et l'Europe ou le Maghreb peuvent répondre?
Alors, l'Europe parfois sur certains segments et le Maghreb également aussi. Mais il faut imaginer que les volumes concernés sont tellement énormes. Quand je parle de millions de pièces, c'est pas en exagérant en fait. Chacun de nos fournisseurs stocke des millions de pièces. Et une commande de vêtements de travail, ça peut très bien être 50, 100 pièces, mais ça peut être 10 000 pièces. Et il faut que ces 10 000 pièces qui vont être réparties sur des pantalons, des vestes, des polos, des t-shirts, il faut que ces 10 000 pièces soient là en stock, idéalement en même temps pour qu'on puisse les marquer en même temps, pour optimiser l'ensemble du dossier. Et en fait, il y a vraiment que les Asiatiques qui font ça bien pour l'instant.
D'accord. Et donc, ça veut dire que c'est des fournisseurs français qui vont faire les appros. Je parle pour vous deux, Costume Carbone et AZCOM Création. Et après, la partie logotage, c'est encore un autre intervenant? C'est comme ça que ça marche?
C'est la plupart du temps comme ça que ça marche. C'est-à-dire, ce sont des marques européennes ou des marques globales. Hein. Dans les marques connues, vous avez des gens comme Fruit of the Loom, par exemple, que tout le monde a rencontré plus ou moins à un moment ou à un autre. Ce sont des marques européennes ou globales qui font fabriquer donc dans leur circuit, hein, souvent en Asie, en Amérique du Sud pour certains, et qui stockent des pièces en Europe. Certains sont équipés de capacités de marquage, mais la plupart du temps, nous commandons chez ces gens-là, nous envoyons les vêtements dans des ateliers de marquage, qui sont aussi nos partenaires, et nous faisons marquer, relivrer chez le client.
D'accord, donc la deuxième phase du process, c'est le logotage, hein, c'est ça?
C'est le logotage, exactement.
Alexandra, un commentaire par rapport à cette partie-là, de tout ce qui est logotage?
Oui, tout ce qui est personnalisation du logo. Donc on a plusieurs techniques de marquage qui vont être identifiées en fonction du support, en fonction du textile, si c'est du coton, du polyester, en fonction du logo de l'entreprise, savoir si elle a une couleur, s'il y a de la quadrille, s'il y a un dégradé. Et là, ce qui est vraiment important dans notre métier, c'est la vectorisation du logo. La vectorisation, en fait, c'est la transformation du logo en petits pixels qui permet ensuite de pouvoir l'adapter dans la taille, aussi bien en 30 cm que en 3 cm si on fait un marquage sur le dos ou un marquage en cœur. On a effectivement beaucoup de partenaires, Nicolas et moi, en France. On essaye effectivement la plupart du temps de récupérer le textile et de le faire marquer en France avec nos partenaires qui sont souvent spécialisés en broderie ou en sérigraphie avec des ateliers de marquage où ils peuvent nous faire de la production assez rapidement.
D'accord. Alors maintenant, j'aimerais que vous m'expliquiez le process par rapport au client. Le client vient vous voir et souhaite avoir des vêtements personnalisés ou voir des objets. En fait, comment vous allez le conseiller et le diriger, et le temps qu'on peut entre le début du process et le moment où il va être, j'allais dire, livré des produits sur lesquels que vous avez définis ensemble.
Ben en fait, par rapport à un client, on a vraiment deux process, comme expliquait Nicolas. Si on part sur des clients qui ont un délai assez restreint, on va dire qu'en un mois, on peut largement réussir à leur fournir des objets, par exemple, sur un événement. Ils ont un anniversaire d'entreprise, ils ont un salon. Donc en fonction de la date, en fait, on va chercher déjà le fabricant qui est capable de livrer à temps. Ensuite, on leur propose nous des maquettes des objets sur lesquels qu'on a sélectionné en amont avec eux, en ayant discuté sur un brief, sur savoir à qui ils donnaient les objets. Est-ce que c'est de la fidélisation? Est-ce que c'est pour de la prospection? Est-ce que aussi des fois c'est pour de l'intérêt interne, hein, les collaborateurs, les cadeaux de fin d'année, on est un peu en plein dedans. Donc là, on a plusieurs questions qu'on va leur poser, et à partir de là, on leur fait des maquettes avec la visualisation de leur logo sur les objets, pour qu'ils puissent visualiser en amont. Ensuite, ils sélectionnent ce qui leur convient. Nous, on passe la commande auprès du fabricant. On gère le marquage. On a une livraison chez nous en interne pour un contrôle qualité. Et après, c'est livré chez le client final. Voilà comment on fonctionne chez AZ.com.
Nicolas, chez Costume Carbone?
Ah ben tout pareil.
Ah bon, moi c'est cool.
Merci Alexandra d'avoir bien établi le process. Alors à une différence près, donc dans le textile, bah ça, on fonctionne exactement pareil. Je crois qu'Alexandra a dit quelque chose de super important, c'est à qui s'adresse le produit en final. Et dans l'habillement, en fait, on a affaire à un support de com qui est aussi un élément de protection, qui est aussi un élément de cohésion, de construction de cohésion d'équipe, et qui est comme n'importe quel objet de com, un élément de visibilité d'une marque qui va rassurer ses propres partenaires. Donc, qui va porter le vêtement, c'est super important, et pourquoi c'est fait, c'est aussi super important. Donc, une fois qu'on a identifié ça, on fait des propositions, des maquettes, etc. Et on suit un process comme l'a décrit Alexandra.
Je vous interromps, ouais. J'aimerais bien avoir la réaction d'Alexandre Penon en tant que client sur ce dernier commentaire.
Moi, j'ai la chance d'avoir mes deux fournisseurs autour de moi. Donc, j'ai fait appel à Nicolas Wolf il y a maintenant quelques années pour créer des vêtements pour mes compagnons en échafaudage, brodés par derrière. C'est bien ça. Oui, moi je voulais de toute façon avoir une identité visuelle qui corresponde à l'entreprise, donc je fais très attention à tout ce qui est publicité, c'est un peu mon cheval de travail tous les jours, donc mes gars soient bien habillés et malheureusement logotisé, et puis avoir des panneaux publicitaires sur tous mes échafaudages et les voitures, les véhicules pareil. C'est ce qui nous ramène 70% de notre travail aujourd'hui. On n'est pas vraiment, on est sur internet, donc effectivement les clients vont rechercher un échafaudeur, mais après ça leur amène une sécurité au niveau du travail. Voilà, il faut que ça soit un ensemble. Et puis Alexandra Pichonna, sur Bois de Chauffe, on a lancé un nouveau produit qui a été un peu stoppé par le Covid, mais c'est un bras zéro, une bûche qu'on a appelée Embrase-moi. Et donc on a logotisé un sac, on s'est pris la tête pendant quelques semaines avec Alexandra pour trouver un sac qui tienne la route, et on a réussi à trouver quelque chose de pas mal où on puisse, les gens ont l'air contents parce qu'ils le gardent pour aller au marché, donc ça doit être...
Ils sont embrasés.
Embrasez-moi sur la bûche, donc ça a l'air de plaire en tout cas.
Après, est-ce qu'on arrive à mesurer les retombées de ce type de produit en tant que tel, ou c'est vraiment de l'image en fait? Alors là, je parle vis-à-vis des clients. Évidemment, en interne, c'est un élément de cohésion, c'est fédérateur, c'est un sentiment d'appartenance, et ça va au-delà. Quand les gens ont vécu X années dans la société et qu'ils ne font plus partie de la société, ils continuent à avoir ce type de produit. Donc ça, c'est clairement identifié. Par contre, sur la partie client, c'est vrai que quand on rentre dans des périodes plus difficiles, on entend toujours on va couper en priorité dans les budgets com. Bon, donc quand on est dans des périodes qui j'allais dire, on ne sait pas trop où on va, et surtout dans cette période de l'année où les entreprises font leur budget, comment ça se passe, Alexandra?
Dans le budget j'ai deux chiffres à vous donner. En fait, par rapport à l'objet, c'est les sources de la fédération dont je fais partie. C'est 99% des Français conservent pour eux-mêmes ou une tierce personne les cadeaux reçus, et plus de 81% se souviennent de l'entreprise associée à l'objet. Donc voilà, c'est vrai que l'objet, c'est un média de communication, comme peut l'être la radio, la télé, etc. Et c'est le seul média où on a quelqu'un qui va nous dire merci.
Nicolas ?
Ben, pas mieux.
Non, bon, mais la prochaine fois, je vais commencer par l'objet. Nicolas. On va voir si Alexandra dit pas mieux.
Alors, Alexandra connaît mieux l'objet que moi, mais le textile, en fait, enfin dans l'habillement, le résultat et la récompense, en fait, c'est simplement que les gens aient plaisir à porter les tenues qu'on leur a soit données pour travailler, soit offertes en cadeau à l'occasion d'un événement. Et c'est la raison pour laquelle on essaye chaque jour de faire monter le niveau de qualité, de manière à ce que les gens portent des vêtements utiles, bien coupés, qui soient beaux, et pour lesquels ils auront plaisir aussi à aller avec leur doudoune marquée au marché. Parce que finalement, c'est un vecteur d'exposition des marques permanent.
Spécifiquement sur les objets, comment vous conseillez vos entreprises sur le type d'objet? Parce que entre le stylo, j'ai vu toute une série de vos produits, mais il y a les produits traditionnels, et puis il y en a qui sortent un peu des sentiers battus. Donc comment vous orientez vos clients, comment vous vous renouvelez, et est-ce que il y a le grand traditionnel?
Alors oui, il y a le grand traditionnel, hein. On va dire que les trois produits les plus vendus sont le stylo, le carnet et le mug. Ça, c'est vraiment les trois basiques. Après, pour nous renouveler, en fait, on participe plusieurs fois dans l'année à des salons réservés aux revendeurs d'objets, où on a la possibilité de rencontrer de nouveaux fabricants. Et on se dirige de plus en plus sur une économie qui va respecter l'environnement. Et on va essayer de plus en plus d'avoir des fabricants qui font du Made in Europe et aussi du Made in France. Nous, on a un petit chouchou en Made in France, c'est la compagnie française des crayons. C'est la dernière entreprise française qui fabrique des crayons en papier. Elle est patrimoine vivant. entreprise du patrimoine vivant. Et c'est vrai que quand on comprend le process, bah effectivement, ils sont un petit peu plus chers que des stylos, que des crayons chinois, mais on a une 42 km d'écriture avec un crayon papier français.
J'ai vu, et je rebondis un peu sur votre commentaire, j'ai vu que tous les deux, vous faisiez référence à la RSE, donc tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises. Donc effectivement, à travers l'objet ou les costumes, c'est des vecteurs de communication, donc c'est des vecteurs effectivement qui peuvent être relayés la RSE. Aujourd'hui, vous voyez votre métier comment à travers ce prisme pour accompagner vos clients vers, un thème qui est à la mode, une plus grande sobriété ? Nicolas ?
Je pense que la première réponse à ça, c'est de leur vendre des produits de qualité qui durent longtemps. Que ce soit une écurie de course qui va potentiellement, il y a encore 5 ou 10 ans, renouveler ses vêtements tous les ans avec tout un tas de logos qui vont changer d'une année sur l'autre. Notre position là-dessus, c'est de leur vendre des vêtements qui vont durer plusieurs saisons, sur lesquels ils vont peut-être mettre un petit peu moins de logos. Les sponsors peuvent se positionner autrement. Et donc, une consommation de vêtements qui sera moins importante, de meilleure qualité, probablement plus chère, mais que du coup aura un impact environnemental plus faible. Et je pense que cette démarche-là, elle s'applique à tous les univers, en fait, pour un stylo comme pour une veste de travail.
Vous avez tous les deux aussi une activité de pays, donc de tout ce qui est protection individuelle. Vous pouvez nous en dire un peu plus, Nicolas ?
Oui, alors le pays, c'est, on va dire que c'est le segment de marché qui s'est le mieux tenu depuis la pandémie. Bon, en l'occurrence, on a vendu des masques en tissu qui sont devenus des EPI puisque la FNOR a édité des normes et que nous avons fait fabriquer ou revendu des masques en tissu qui puissent protéger les gens. Donc le pays, c'est une nécessité dans certains métiers. Des gens qui travaillent avec de l'arc électrique, avec de la soudure, qui travaillent dans le froid, qui travaillent dehors dans des conditions de luminosité faibles, et toutes ces contraintes en fait obligent les employeurs à protéger leurs salariés. Donc que ce soit avec de l'isolation thermique, de la haute visibilité ou des produits techniques qui vont les protéger des arcs électriques et autres contraintes. Donc ce sont des produits techniques. Il y a aussi beaucoup de différences de niveau de gamme, des produits pas chers, des produits moyennement chers, des produits plus chers. Et notre boulot, en fait, c'est de sélectionner les fabricants, de sélectionner les produits, de comprendre vraiment le besoin, et puis de leur faire la meilleure proposition qui soit.
Oui, et j'ai eu l'occasion de voir qu'il y avait une évolution en termes aussi de qualité d'esthétisme sur les produits EPI, donc de protection. Entre autres, j'avais découvert que il pouvait y avoir des chaussures de sécurité à talons pour les femmes. Et ça m'avait impressionné. Effectivement, il y a dans certains showrooms, il peut y avoir de la manipulation de produits lourds. En plus, pour la personne qui est dans le showroom, et si c'est une femme, comment on gère ce problème de sécurité ? Eh bien, on a une réponse la chaussure de sécurité à talons. Donc, c'est vrai que il y a tout un environnement de au-delà de la sécurité, de monter en gamme de la qualité de l'esthétisme qui fait que pendant longtemps par rapport à la sécurité, c'est pas beau donc je mets pas. Et maintenant on a une évolution. Alexandre, vous l'avez rencontré aussi.
Alors moi j'ai commencé il y a 30 ans mais j'avais 16 personnes avec moi, je me battais tous les jours pour qu'ils mettent les casques de chantier. Le jour où je leur achetais des casques design d'escaladeur et qu'il se sentait vraiment valorisé, j'avais même plus à le dire, il le mettait tous les jours.
Sur le pays, Alexandra, vous êtes rentrée dans le secteur de l'EPI depuis peu ?
Oui, depuis peu, puisque j'ai racheté une entreprise au mois de juillet. Donc c'est assez récent pour moi. On a fait pas mal de sessions de formation sur les chaussures, hein, notamment, avec les normes à apprendre, à bien comprendre pour pouvoir bien proposer la bonne chaussure à nos clients, sur les gants. Voilà, c'est vraiment un métier passionnant. C'est très très enrichissant. Donc nous, on a commencé à pouvoir proposer ce genre de produits aux clients de l'ancienne entreprise que j'ai repris. Effectivement, les marques qui proposent aujourd'hui de plus en plus de produits lookés, de produits retail, boutiques, pour que ça soit du corporate ou de l'EPI. On a aujourd'hui des matériaux avec beaucoup d'élastane, par exemple, pour pouvoir avoir un meilleur confort, même sur des produits dits de sécurité. On a les fabricants qui inventent toujours des produits plus agréables, plus jolis.
Nous allons faire une nouvelle et probablement dernière pause. À tout de suite. D'entendre Ina Forsman, Don't Lose Today. Donc je reprends avec mes trois invités sur IDFM 98, Alexandre Penon, Boîte Chauffe 95, Échafaudage 95, Alexandra Pichonaz, AZCOM Création et Nicolas Wolf, Costume Carbone. Juste un dernier point, Nicolas Wolf, sur tout ce qui est fabrication spéciale de textiles. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point précis ?
Oui, alors la fabrication spéciale des textiles, c'est un peu la deuxième manière de travailler que nous avons, qui consiste à faire fabriquer en usine directement des vêtements. C'est également le cas pour l'objet, ça arrive de faire ce genre de choses en objet aussi, mais en textile, du coup, c'est un process qui prend beaucoup plus longtemps, puisque les vêtements, par définition, ne sont pas disponibles sur étagère, en stock, chez nos fournisseurs. Donc là, on discute avec des usines en direct, et notre responsabilité, en fait, elle est double, elle est de très bien comprendre le brief du client, de lui proposer des designs qui lui conviennent. Donc on bosse avec une graphiste freelance qui est basée à Saint-Leu-la-Forêt, qui est capable de faire les designs de vêtements. Et ensuite de briefer une usine pour faire ses fabrications, de faire fabriquer, non, déjà de proposer des tissus aux clients et de faire fabriquer des prototypes qui conviennent pour développer un dossier complet de vêtements en fabrication spéciale. Ce qui permet de faire des uniformes comme on peut le voir parfois dans certaines grandes entreprises. Voilà, c'est un peu différent de l'achat de vêtements de stock et la broderie en local. Ça propose plus de flexibilité, mais aussi des contraintes de volume et de temps.
Ok, merci. Maintenant, j'aimerais vous poser à tous les trois une question plus générale, mais précise quand même. C'est quels sont vos plus ? Donc on va commencer par Alexandre. Il est obligé de me dissocier boîte chauffe de échafaudage 95, boîte chauffe 95, pardon, d'échafaudage 95.
Je vais commencer par boîte chauffe 95. Boîte chauffe 95, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la négoce de boîte chauffage. Donc, quand on dit négoce, ça veut dire que nous, on a les mêmes problématiques que nos clients, c'est-à-dire que quel est le bois, est-ce qu'il y a, quelle température, quel degré d'humidité il a quand il arrive chez nous. Donc, c'est à nous de conseiller nos clients et nous de faire en sorte que nos fournisseurs nous amènent un bois de qualité. Alors, c'est vrai que quand vous achetez votre bois le printemps, c'est beaucoup plus simple parce que si vous l'achetez maintenant à cette époque de l'année, il traverse la nuit un brouillard épais pendant le transport, il perd 10% d'humidité. Donc, c'est difficile de faire comprendre ça à nos clients. Donc, notre plus, c'est de rester au contact de notre clientèle et de faire en sorte qu'ils achètent leur bois, qu'ils le stockent au bon moment. Ça, c'est pour bois de chauffe 95. Pour échafaudage 95, bah, ça va faire 30 ans aujourd'hui, donc je pense que l'échafaudage, j'ai monté à peu près tout. J'ai monté le pied de la tour Eiffel, donc j'ai monté des gros immeubles, des ponts, des, à peu près tout dans ma petite carrière d'échafaudeur. Donc mon plus, c'est que le client se décharge complètement de l'aspect poste de travail et sécurité adapté pour ses compagnons. Et que si jamais il a un problème avec la sécurité, ça devient mon problème et plus le sien.
Nicolas ?
Ben, moi, mon plus, je pense que c'est l'expertise textile hein, que j'ai développée chez Nike d'abord, à l'IFM ensuite et depuis 12 ans dans la société. Donc ça fait 25 ans dans le textile, on va dire. L'écoute, le conseil et le souci de proposer de la qualité, ça résume assez bien, je dirais, notre valeur ajoutée. Avec évidemment le petit plus de la fabrication spéciale quand l'occasion se présente.
Alexandra ?
Alors, moi, donc, on se veut une agence à dimension humaine qui permet, en fait, de garder un rapport très, très proche avec nos clients. On a une relation plutôt de partenaire où on va avoir un suivi personnalisé et quotidien avec le client, avec un interlocuteur unique. Le respect des délais dans notre métier, c'est hyper important, parce que livrer le lendemain de l'événement, c'est un peu dommage, donc ça, c'est pas possible. Le respect aussi des objectifs et des budgets.
Vos sociétés ayant toutes plus de 10 ans, j'aimerais savoir quelle est votre plus belle réussite. S'il y en a une qui ressort du lot et qui vous a donné une grande satisfaction, une grande joie interne. Alexandre ?
Moi, je l'ai dit tout à l'heure, sans faire exprès, mais...
Il anticipe sur ma question.
Il anticipe, je vais revenir dessus. J'ai un petit monsieur qui est arrivé chez moi dans mes bureaux il y a 4 ans et qui m'a dit, voilà, j'ai une petite société, on est deux, j'étais d'accord, et on est spécialiste de la pose d'antenne sur les pylônes de plus de 300 mètres de haut. Donc, je sais pas si vous allez pouvoir m'aider. On a besoin de faire une rampe de plus de 70 mètres avec des notes de calcul précises parce qu'on doit changer l'antenne sur la tour Eiffel. Donc on est passé par le bureau d'études, ça a été une prise de tête pendant un mois et demi avec un touré, donc un touré c'est le câble spécial qui a permis à la tour Eiffel de passer à 324 mètres de haut, et donc on a fait venir ce touré la nuit. La tour Eiffel on bossait que de nuit, donc on a installé cette rampe, et pour me remercier le client m'a offert le dernier bout du câble qu'il avait démonté de la tour Eiffel que j'ai monté en lampe chez moi, et tous les jours je vois ce petit bout de lampe et ça me fait bien plaisir.